Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce vendredi matin est Alexis Bouchard, il est membre du Parti Socialiste. Je serais tenté de rajouter ex-secrétaire national des Jeunes Socialistes. Bonjour Alexis Bouchard.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de revenir plutôt à une politique plus locale.
Eh bien, nous, en l'occurrence, mon engagement, lui, il a commencé en 2020, où j'ai petit à petit monté les échelons nationaux, notamment dans cette organisation de jeunesse de gauche que sont les Jeunes Socialistes, d'abord en étant animateur de ma fédération en Ille-et-Vilaine, puis membre du bureau national et enfin secrétaire national. J'ai participé quelque part aux côtés d'Emma Rafovitch, notre présidente jusque-là encore dimanche, à la reconstruction de cette organisation qui a vu, durant ce congrès de Nancy, donc ce week-end, près de 2000 militants aller aux urnes, voter et s'exprimer sur la ligne à trancher, et donc un nouveau président a été élu, Rémi Boussemard. Mais c'est pour vous dire, en l'occurrence, le nombre de militants qui sont revenus aussi dans le giron des Jeunes Socialistes, faisant de cette organisation la première organisation de jeunesse de gauche en France. Et donc je voyais, encore à Nancy ce week-end, avec 500 délégués présents, une énergie, une dynamique et surtout de nouveaux jeunes talents. Et donc, dans une démarche peut-être aussi de passer le flambeau et de faire émerger ces nouveaux talents, je me suis dit, en tout cas, je n'avais pas de souci à me faire sur le fait que l'organisation allait très bien tourner sans moi et sans d'autres qui ont participé à la reconstruction. Mais c'est quelque part un peu la fierté, notre fierté, puisqu'on a connu effectivement des temps difficiles et notamment des universités d'été où nous étions 30 dans une école. Et quand nous voyons aujourd'hui que nous sommes 4000 avec 2000 militants qui tranchent la ligne et qui participent au congrès, ça nous rend très fiers du travail que nous avons mené. Donc place à la très jeune génération.
Voilà, il fallait cette petite explication. C'était important de comprendre aussi votre démarche. Il y a des élections municipales. Vous avez des idées déjà je vais presque dire en vous rasant le matin.
Peut-être pas, en l'occurrence, peut-être pas ce genre d'expression pour ce genre de scrutin. Mais effectivement, moi, j'ai toujours eu un attachement à l'engagement dans ma commune et en l'occurrence sur mon territoire. J'ai déjà été candidat aux élections municipales de 2020 à Saint-Uniac, une commune entre Montfort-sur-Meu et Montauban de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Et effectivement, j'ai des idées pour ma commune, comme j'ai eu des idées dans le cadre des élections régionales, où j'ai été également candidat en 2021 aux côtés de Loïc Chesnais-Girard, notre président de région. Et donc, moi, je considère que partout où on le peut, les jeunes, des personnalités aussi qui s'engagent comme moi dans des associations locales, des citoyens, des personnalités aussi, pourquoi pas de progrès, pourquoi pas de gauche, puissent aussi porter leur voix. Et en l'occurrence, moi, effectivement, j'ai quelques idées pour nos ruralités, pour faire en sorte qu'elles soient dynamiques, pour faire en sorte que le logement y soit abordable, pour faire en sorte que nos écoles tournent toujours, pour faire en sorte que nos associations tiennent toujours. J'ai des prétentions et en l'occurrence, je compte bien m'investir effectivement sur ces scrutins. Et j'invite le maximum de citoyens, à l'heure où on aura peut-être une crise de candidature, notamment dans les petites communes, à prendre parti, et en l'occurrence, à minima, de prendre part dans la vie de leur commune.
Alors justement, il y a une crise aujourd'hui. On voit des maires, on voit des conseillers municipaux qui jettent l'éponge parce que fatigués, parce que usé aussi peut-être par beaucoup de démarches administratives, parfois suite à des incivilités aussi, il faut bien le dire. Il faut aussi qu'il y ait un regain de jeunesse dans les communes, dans les territoires ruraux particulièrement.
Il faut pourquoi pas un regain de jeunesse, mais c'est pas pour faire du jeunisme, il faut aussi de l'expérience. Mais je pense simplement qu'il faut surtout un retour à l'autonomie fiscale des collectivités et la mise en place d'un vrai statut de l'élu qui aujourd'hui manque cruellement et qui permettrait potentiellement à une nouvelle génération d'émerger et qui puisse convenablement faire effectivement ce travail presque qui est celui de l'élu, même si ça ne reste qu'une fonction et c'est considéré comme tel, mais effectivement avec toujours des normes qui se rallongent, avec des démarches administratives qui deviennent aussi de plus en plus complexes, des moyens toujours de plus en plus restreints, notamment dans les petites communes, et des transferts de compétences, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, vers les intercommunalités, les maires, notamment des petites communes, se retrouvent vite sans le sou, un peu dépourvus de toute capacité d'action, et c'est véritablement quelque part redonner sens à la fonction de l'élu, c'est donner à peut-être d'une certaine manière plus de capacité d'agir aux élus, et c'est ce pourquoi, en l'occurrence, moi je milite, mais on est beaucoup à militer en ce sens.
Alors justement, les élus aujourd'hui, et les maires en particulier, c'est le premier échelon pour le citoyen lambda, c'est d'aller voir son maire pour dire voilà, ça va pas, ou parfois aussi ça va, mais c'est souvent quand ça va pas. Oui. On va voir le maire, et pas forcément pour des domaines de compétences du maire, mais voilà, c'est la première entrée de la République, allais-je dire. C'est important de la garder, cette première porte de la République.
Oui, bien sûr, et c'est important à l'heure où effectivement bah, on a des partis, en tout cas surtout l'extrême droite qui prend part et qui fait son chemin, notamment dans les petites communes, d'avoir des élus, effectivement des maires qui tiennent la barre sur potentiellement, pas nécessairement un fonds républicain, mais qui, sur un certain nombre de valeurs, viennent aussi protéger l'institution qu'est le maire, en ramenant de la pondération aussi dans les débats publics, en faisant potentiellement de la pédagogie sur ce qu'ont comme capacité les maires, ce que n'ont pas comme capacité les maires, pour ramener de l'équilibre, de l'apaisement aussi, dans ce qui peut aussi créer de l'énervement chez des citoyens, où effectivement on a le réflexe d'aller voir le maire, mais où le maire effectivement ne peut pas tout, mais peut être aussi une voix justement pour porter des combats auprès de collectivités comme le département, la région ou que sais-je, et qui peut aussi, d'un point de vue purement politique, se saisir de sa fonction pour porter des messages dans les médias, dans la presse quotidienne régionale, sur les radios, qui peuvent aussi interpeller l'État, les grands élus, qui pourraient aussi faire ce changement qu'on appelle de nos voeux, de plus de pouvoir pour les collectivités, pour changer à la racine les choses, parce que c'est bien dans les collectivités et les maires eux-mêmes qui savent au plus près du terrain ce que sont que les besoins des citoyens sur leur territoire, et donc c'est toute cette démarche aussi qui peut être intéressante. Les maires doivent se saisir aussi de leurs fonctions pour porter ces combats, et les citoyens ont évidemment raison de nous interpeller, mais c'est aussi l'opportunité d'expliquer ce qui peut être fait, ce qui peut ne pas être fait.
Avec les contraintes budgétaires, hein, vous le soulignez, qui deviennent de plus en plus présentes. On va en redire un mot tout à l'heure, mais j'avais envie de vous entendre sur le volet politique. Vous évoquiez à l'instant le congrès des jeunes socialistes à Nancy, où vous avez passé la main, hein, donc. Et puis, il y a les choix politiques à venir, justement, pour le prochain congrès. Alors, cette fois-ci, c'est le grand congrès, si vous me permettez de le dire comme ça.
On s'est échauffé.
Voilà. Il y a des réflexions, il y a aussi des courants. Alors c'est très, j'allais dire, des courants sont très courants au Parti Socialiste, oui. Si vous me permettez le petit jeu de mots sans vouloir le faire. Mais est-ce que le Parti Socialiste va arriver à dégager, au-delà de tous ces courants, une ligne politique pour pouvoir aller un petit peu plus loin? Vous suivez un peu mon regard.
Oui, moi je suis assez convaincu. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui vacille de plus en plus, où l'extrême droite prend part et prend le pouvoir dans un certain nombre de pays, et qui commence à gangréner aussi le débat public en France. Hein. L'extrême droite, c'est pas qu'aux États-Unis, en Hongrie, en Italie, ou même presque, on allait dire cette semaine, en Roumanie. C'est aussi en France, via les débats publics, via une droitisation de la droite dite républicaine, ou même des premiers représentants du centre qui reprennent à leur compte l'expression de submersion migratoire. Les socialistes, face à ça, doivent trancher une ligne claire, et ça se fait à travers effectivement le congrès. Et moi, en l'occurrence, je soutiens la contribution et le texte d'orientation d'Olivier Faure, dénommé le cœur à gauche, qui propose de renverser l'ordre établi, de renverser la tendance, d'apporter le droit au bonheur à travers l'augmentation des salaires, à travers l'abrogation de la réforme bande sur les retraites et l'augmentation des petites retraites, d'un véritable retour à la souveraineté industrielle et agricole française, européenne, pour faire face justement à ces nouveaux régimes toujours plus totalitaires, et pour faire face quelque part à l'extrême droite, et apporter des réponses à un sentiment finalement de déclassement que peut avoir certains nombres de nos concitoyens, pour les ramener dans notre giron, parce que beaucoup qui votent extrême droite ont pu voter à gauche. Il va falloir faire preuve de pragmatisme et de pédagogie pour aller chercher ces électeurs, en leur disant que les seuls à pouvoir défendre leur vie concrètement, sur les salaires, sur leurs revenus, sur les services publics, notamment dans les petits territoires, ce sont la gauche, les socialistes, et certainement pas l'extrême droite, qui à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'Assemblée nationale en l'occurrence, pour être très clair, vote contre l'augmentation des salaires, contre les petites retraites. Et donc c'est ce retour-là aux fondamentaux et au retour, disons, à la défense de la vie des gens qui doit nous imprégner. C'est donc à travers ce congrès que nous allons trancher cette ligne.
Faut retourner chercher le peuple de gauche, ou pas forcément que le peuple de gauche, mais ces électeurs qui se sont sentis abandonné par la gauche socialiste.
Oui, on a eu un socle électoral à 42% en 2012, pour la gauche en l'occurrence, à une période où nous étions forts. Ce socle est descendu à 27% en 2017 après le quinquennat de François Hollande et il remontait très légèrement en 2022 à autour de 31%. Et donc, on constate bien, notamment depuis 2017, que les socialistes, et c'est tout ce qu'on propose avec Olivier Faure, doivent rechercher, retrouver tous ceux qui sont partis à la fois chez Jean-Luc Mélenchon, chez Macron, dans l'extrême droite, mais aussi dans l'abstention. Donc c'est tout un travail de longue haleine, mais qui a été déjà entamé au cours du dernier mandat, hein, où nous avons eu un certain nombre de conventions nationales, notamment celle Retrouvons le peuple, qui consiste effectivement bien à revenir aux fondamentaux sur la question sociale. Quand on voit aujourd'hui que partout sur les territoires, y compris même en Bretagne, on a des usines qui sont pourtant dopé à des subventions publiques, mais qui reversent bon nombre d'argent et de leurs bénéfices à leurs actionnaires, eh bien on peut se demander comment se fait-il que des entreprises comme les Fonderies de Bretagne, on a failli y passer, mais ArcelorMittal ou bien d'autres, puissent aujourd'hui mettre sur le carreau des centaines, des milliers de salariés. On rentre aujourd'hui dans une année rouge et on peut se demander comment se fait-il que ces entreprises qui, parfois même au CAC 40, sont présentes et qui font des bénéfices records, puissent se permettre de licencier des gens, des ouvriers. Et donc, nous, c'est toute notre place que l'on retrouve et que l'on à laquelle on travaille, c'est-à-dire retrouver le peuple depuis 2018 avec Olivier Faure dans une démarche d'union de la gauche pour reconquérir les classes populaires, les classes moyennes et faire véritablement ce front de classe qui finalement a fait gagner les candidatures socialistes de gauche dans la 5e République, notamment celle de François Mitterrand. C'est tout ce travail de longue haleine qui doit être mené, mais on va arriver en 2027, ça fera 15 ans en 2027 qu'on n'aura pas eu de candidat de gauche au second tour d'une élection présidentielle, il est temps que cela change et donc on y travaille et 2027, ce sera notre tour. On doit sortir du duel mortifère de l'extrême droite et de la Macronie. Les gens n'en peuvent plus de ces 10 années de Macronie, de casse sociale, de casse des services publics et donc la gauche a une immense responsabilité quant à la capacité à travailler, à porter un projet de société, des propositions fortes sur, je le disais, l'essentiel, sur le pouvoir de vivre, sur les salaires, sur les retraites. Eh bien, la gauche prend toute sa part, le Parti Socialiste prend toute sa part et nous y travaillons ardemment.
Avec des décisions à prendre, des votes, je crois qu'il y a un vote qui est prévu.
Le 27 mai, mardi prochain.
Voilà, donc vote qui va dégager une ligne finalement directrice. Il y a beaucoup de tensions entre le Parti Socialiste aussi et ses partenaires à gauche. On pense évidemment à LFI, il y a eu l'épisode Jérôme Gage. Est-ce que le divorce est consommé ?
Oui, je le disais, moi, on a un socle, c'est-à-dire toute la gauche, l'électorat de gauche, la base électorale de gauche, toute mouillée, elle fait 31-32%. Et donc, il y a effectivement des lignes stratégiques, notamment sur quel spectre pour l'union de la gauche qui se décide et qui se débatte au sein du Parti Socialiste. Nous, on milite avec Olivier Faure pour une union la plus large possible. Or, effectivement, force est de constater que Jean-Luc Mélenchon, d'une part, est d'ores et déjà candidat à la présidentielle de 2027, et de fait, il a trahi les engagements du NFP, il a trahi l'union de la gauche, et donc nous devons travailler à une forme alternative d'unité qui soit en capacité d'être au second tour. C'est ça l'enjeu de cette élection, c'est de parvenir à être qualifié au second tour pour enfin battre l'extrême droite, et les derniers sondages le prouvent, une candidature d'union de la gauche non mélenchoniste parviendrait à se qualifier au second tour et permettrait, par la force de l'union, quelque part en prenant les choses à l'inverse, et bien à battre potentiellement l'extrême droite et à faire advenir les jours heureux avec la victoire de la gauche en 2027. C'est ce pourquoi nous militons avec Olivier Faure et la contribution, le texte d'orientation Le Cœur à Gauche, d'une union dite de Raphaël Glucksmann à François Ruffin pour faire ce front de classe, pour aller chercher tous ces électorats dans les villes, dans les campagnes, dans les usines, auprès aussi potentiellement d'une certaine bourgeoisie, on peut le dire, avec des professeurs, des personnes de la classe moyenne et d'une classe plus aisée pour véritablement dépasser ce seuil de 30%. Parce que pour gagner, il faut faire 50% plus une voix. Et donc, effectivement, mais en l'occurrence, effectivement, sur le fond, au-delà de l'acte de candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui, de fait, empêche une union de la gauche très large, il y a à bien des écarts des maladresses et des choses très regrettables qui ont été faites, notamment par les cadres. Et c'est ce pourquoi nous disons qu'il faut être très pragmatique et faire très attention, c'est-à-dire que l'électorat de gauche n'appartient à personne et certainement pas aux insoumis, quand bien même ils ont fait 22% 5% à la dernière élection présidentielle, mais on voit bien qu'à travers toutes les élections, eh bien, l'électorat de gauche va au vote le plus utile. Mmh. L'électorat de gauche est désespéré, et dans tous les marchés, devant les gares, devant les usines, partout où on va, on nous dit « mais unissez-vous le plus largement possible », mais l'électorat de gauche n'appartient à personne, et les insoumis ne peuvent pas dire qu'avec 22% à la présidentielle, quand il y a une logique de vote utile, dire qu'ils représentent 22% de la gauche, parce que la gauche est disparate, elle est diversifiée, et les votes, en l'occurrence, changent au gré des élections. Donc non, Jean-Luc Mélenchon ne représente pas 22%. Il a eu des sorties sur des références antisémites qui sont plus que problématiques. Il a peiné à soutenir personnalités de gauche qui potentiellement étaient violentées. Je pense à des socialistes à qui je réitère mon soutien, Jérôme Guedj, Emma Rafovitch et d'autres, pendant les manifestations du 1er mai à Paris, des choses qui sont scandaleuses. Des références aussi à des affiches des années 40 sur des affiches officielles de la France Insoumise. Quand on sait que Jean-Luc Mélenchon est un homme cultivé et qu'il connaît toutes ses références, eh bien on peut franchement se poser des questions sur la difficulté à qualifier le 7 octobre 2023 le Hamas d'organisation terroriste. Enfin, ça pose plein de questions, mais il faut savoir différencier cet électorat qui a voté Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'était pas nécessairement insoumis, mais qui cherche effectivement une manière pour que la gauche puisse gagner. Donc faire la différence entre les cadres insoumis et l'électorat insoumis, c'est ce que nous voulons chercher. Nous voulons redonner de l'espoir et aller chercher cet électorat insoumis dans le giron du nouveau Front populaire, en leur disant que la véritable unité, nous la construisons, et ils sont évidemment toutes et tous les bienvenus.
Avec, on le voit beaucoup, on l'aura compris, hein, de prudence vis-à-vis de LFI, et puis voilà, le divorce, hein, on l'aura compris, effectivement, est consommé. Avec aussi ce livre qui est sorti, La Meute, qui a, j'allais presque dire, donné un petit peu d'eau au moulin, allez, je suis peut-être un peu provocant, mais du Parti Socialiste, hein.
Oui, alors moi je ne l'ai pas lu personnellement, j'ai effectivement vu des passages qui sont assez édifiants sur le fonctionnement interne de LFI, mais ce n'est pas du tout les mêmes pratiques que l'on a avec le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est un parti démocratique, je le disais, on est en période de congrès, donc nous, en interne, on débat et on tranche par le vote nos positions, et une fois que le vote est passé, on travaille à l'unité. C'est ce qui a été fait notamment par Olivier Faure au dernier congrès. Le dernier congrès de Marseille a été très violent, virulent, en tout cas médiatiquement, mais depuis 2023, toutes les décisions, même celles qui pourraient paraître les plus clivantes, ont été votées à la quasi-unanimité ou à l'unanimité pour chacune d'entre elles, que ce soit la désignation de notre tête de liste pour les européennes, la désignation de la liste pour les élections européennes, la désignation et l'accord du nouveau Front populaire, encore une fois avec LFI à l'époque, mais nous étions dans un moment tellement grave où Jordan Bardella, l'extrême droite, était si haut au lendemain de l'élection présidentielle qu'il fallait de toute façon faire l'union de la gauche. Et aujourd'hui, ceux qui revendiquent en interne du Parti Socialiste une rupture claire et nette avec la France Insoumise, mais pas qu'avec Mélenchon, c'est-à-dire avec toute une frange de la gauche, et en inventant finalement et en remettant au goût du jour et sous la lumière ce retour, disons, des gauches, de la thèse des gauches irréconciliables. Or, il n'y a pas de gauche irréconciliable, je le disais, l'électorat de gauche est diversifié certes, mais il cherche toujours le vote le plus utile pour faire progresser, faire gagner la gauche. Et bien, des gens comme Carole Delga, Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy à l'époque ont voté pour l'accord du NFP, et donc c'est aujourd'hui assez saisissant, peut-être drôle, mais ce n'est pas forcément très drôle à l'heure où l'extrême droite est au pouvoir, que de voir que il y a encore quelques mois, et puis ils pouvaient voter un tel texte, et aujourd'hui ils sont bec et ongles contre. Donc, mais sur la censure de Michel Barnier, sur la non-censure du budget Bayrou, il y a eu aussi l'unanimité au sein du Parti Socialiste. Donc cette unité, elle est travaillée au corps, et c'est parce que nous sommes un parti démocratique où on débat en interne et où en général on s'efforce le plus possible de laver notre linge entre nous, en famille, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la France Insoumise, qui effectivement a des pratiques plus que douteuses, mais qui pose aussi question sur les conditions et les natures des gens. Il y a des propos qui sont sur des cadres qui sont plus que scandaleux, sur des à caractère raciste, à caractère homophobe, et franchement ça pose question. Donc je suis pas sûr que ce soit l'idéal pour construire une force qui puisse rassembler, en l'occurrence, faire l'union de la gauche, en tout cas, être dans la capacité de gagner, il va falloir aussi faire preuve de pragmatisme. Et donc, le Parti Socialiste, comme d'autres partis à gauche, eh bien, par la démocratie interne, par le vote, aussi parviennent à quelque part rassembler davantage.
Avec, au-delà de ça, l'exercice de pouvoir, on peut imaginer la suite. On va parler un petit peu de la présidentielle tout à l'heure, mais j'avais envie de vous entendre aussi sur les élections municipales. On les a évoquées en commençant, puis il y a Rennes, les grands enjeux, alors les grandes villes, hein, Brest, Rennes, Lorient, Saint-Brieuc. Rennes, c'est un enjeu particulier, avec un contexte particulier aujourd'hui, on le voit avec ce contexte d'insécurité. Une droite qui progresse à Rennes, en tout cas dans le paysage médiatique, une union peut-être des droites, ça va être difficile d'éviter l'alternance à Rennes.
Moi, je suis assez confiant, malgré tout ce que l'on peut dire. Et encore, moi, je milite beaucoup, par exemple, dans nos quartiers à Rennes. Ça m'arrive aussi de rencontrer toujours du monde, notamment à Villejean. On voit les habitants du quartier qui, malgré tout, sont fiers d'être rennais. Et quand on se promène, d'ailleurs, partout à travers les quartiers, globalement, on peut dire qu'on vit bien à Rennes. Et Rennes, depuis 1977, et Edmond Hervé, est socialiste. Ça fait 50 ans. Et moi, je milite pour qu'on ait 50 nouvelles années de socialisme municipal à Rennes. Pourquoi ? Parce qu'on a un soutien accru à toutes les associations dans des périodes de tension. On a des transports qui fonctionnent bien, on a des services publics sur les territoires, on a 700 millions d'euros qui sont investis aujourd'hui à Morpa, au Blône, à Villejean, dans les quartiers pour faire en sorte d'y amener des commerces, des entreprises, des artisans. Il y a toute une attention particulière aussi pour amener de l'emploi ouvrier, pour faire en sorte aussi qu'il y ait plus de logements, plus densifié évidemment, parce qu'il y a la croissance démographique qui fait que on y porte une attention particulière, mais les choses sont faites, et toujours avec ce fil vert depuis 2020 où la sociale écologie a pris place, et où toutes les politiques publiques faites par la collectivité, la ville de Rennes et la métropole de Rennes, s'inscrivent dans une démarche aussi de verdissement, d'une attention particulière à l'écologie, et ça sur tous les pans, sur l'économie, sur les transports, avec bien évidemment, les pistes cyclables, les aides apportées pour qu'il y ait de vélos, le réseau express vélo en métropole. Je veux dire tout ça, que les projets, en l'occurrence les promesses sont tenues, elles sont faites, et il n'y a aucune raison en l'occurrence qu'on puisse être en difficulté là-dessus, même s'il y a des sujets, mais en l'occurrence, sur le sujet de la sécurité,
la sécurité,
ce sont des sujets...
Nathalie Appéré est très attaquée sur la sécurité.
Bien sûr, mais ce sont des sujets régaliens, et en l'occurrence, la maire de Rennes, quand il s'agit de faire de l'ordre public, puisque ça revient sur ces sujets, c'est la police nationale, potentiellement la BAC, le RAID, la compagnie républicaine de sécurité qui sont en charge sous l'autorité du préfet, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur en charge de ces sujets, et ce n'est pas absolument dans les prérogatives de la police municipale que de faire face aux narcotrafics mondialisés qui sont des réseaux mafieux de narcotrafiquants, mais qui...
La lutte se passe à un autre niveau finalement.
La lutte se passe à un autre niveau, puisqu'en l'occurrence à Rennes se font face des réseaux marseillais, parisiens, nantais, qui n'ont rien à voir par ailleurs avec toute forme d'organisation rennaise, mais on a un changement de paradigme depuis quelques mois où effectivement les ports maritimes sont des voies d'entrée de plus en plus faciles, notamment sur le littoral breton et l'ouest, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises notamment au port du Havre et qui permettent, y compris même dans les petits ports bretons, je pense à Douarnenez, des entrées pour faire en sorte que des marchandises qui sont liées au narcotrafic puissent aussi rentrer sur notre territoire. Et donc, il y a une certaine envie de la part de ces réseaux, je le disais, mafieux de Marseille, de Nantes, de Paris, de prendre ce territoire qui est la Bretagne parce qu'il devient intéressant.
C'est un marché, finalement.
C'est un nouveau marché.
Business.
Exactement. Il faut s'y installer. Et donc, effectivement, il y a des gangs qui se font face. Et on le regrette, évidemment. Mais on est effectivement dans cette démarche où on considère qu'on ne doit pas lâcher du terrain, parce que sur les prérogatives qui sont celles de la ville fait le job. Elle va bien au-delà d'ailleurs des engagements qui ont été pris en 2020 avec 40 policiers municipaux supplémentaires qui ont permis de tripler le nombre de patrouilles, et y compris la nuit, avec des brigades anti-incivilité, avec un fourgon qui dans les quartiers se déplace pour faire de la présence, avoir du bleu sur les territoires, avec, je le disais, la restructuration des quartiers qui font des services publics et qui, d'une certaine manière, font qu'on ne lâche rien dans les quartiers pour faire en sorte que les les gens restent et vivent bien dans leur quartier, de faire en sorte qu'il y ait de la vie dans les quartiers et qu'on ne laisse pas de l'espace public disponible aux narcotrafiquants sur tous ces sujets. Et même en matière de vidéoprotection, on a près de 4500 caméras aujourd'hui en France. C'est énorme. Et, à Rennes, pardon.
À Rennes, oui.
C'est énorme si on intègre justement les caméras dans les transports. Ça vient bien au-delà des engagements. Et la ville, en l'occurrence Nathalie Appéré et sa majorité, ça n'en fait en cas doute, fait tout ce qui est en leur possible justement pour faire en sorte de ne laisser aucun terrain à ces narcotrafiquants.
Alors il y a un autre terrain qui est occupé, ça fait le... pardon, il y a un autre terrain, voilà, je chasse mon petit chat dans la gorge, qui est occupé par l'entrisme des frères musulmans. On en entend beaucoup parler ces dernières heures avec ce rapport qui a été rendu public, alors en tout cas pour une partie de ce rapport, le reste étant classifié. Il y a une inquiétude de la part du gouvernement, on a entendu Emmanuel Macron avoir des mots assez fermes, on a entendu Bruno Retailleau également, le ministre de l'Intérieur. C'est une inquiétude, cet entrisme des frères musulmans, ce risque de déstabilisation de la société et même plus loin de la République.
Toute forme de déstabilisation, d'extrémisme quelque part qui pourrait gangréner soit des communautés, soit des groupements, hein, ça peut être aussi politique, religieux, qu'importe, et dangereux, et donc il faut effectivement s'y atteler, mais il ne faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire qu'effectivement il ne faudrait pas qu'au travers même de la dénomination les frères musulmans, on puisse considérer...
On parle bien d'islamisme.
Bien sûr, d'islamisme et non pas d'islam, mais c'est là tout le danger, et dans l'heure où les fantasmes de l'extrême droite prennent plus de place, il faut faire attention effectivement à la sémantique, aux mots que l'on utilise, et donc pour les frères musulmans, il serait intéressant aussi de voir et de faire des enquêtes, des rapports sur le nombre de groupuscules d'extrême droite qui émergent dans le pays, y compris même dans des territoires comme en Bretagne qui n'en connaissaient pas jusque-là. On voit bien qu'ils prennent aussi de plus en plus de place, donc effectivement toutes ces enquêtes, tous ces rapports sur des groupements, des groupuscules qui mettraient en porte-à-faux la République, eh bien, sont bons à prendre pour mieux lutter contre eux, mais attention aux amalgames qui pourraient faire en sorte de justement faire confondre à mauvais titre musulmans, islamisme, même je dirais catholique intégriste, etc.
D'où l'importance du choix des mots, de la sémantique. Un dernier mot, il nous reste trois petites minutes, ça va être très rapide. Alexis Bouchard, je voulais vous entendre aussi sur un volet politique important aussi pour le Parti Socialiste. Alors vous allez me dire, Bruno Retailleau vient de remporter la présidence des Républicains. On a le sentiment d'un rééquilibre avec les Républicains qui reprennent leur place, la droite en règle générale qui revient sur le devant de la scène. On a le sentiment également à travers tout ce que vous nous avez pu nous dire depuis le début de cet entretien que le Parti Socialiste reprend aussi sa place. Est-ce qu'on revient à l'avant Emmanuel Macron, c'est-à-dire des clivages politiques, si vous me permettez le terme, bien identifiés?
Moi, je l'appelle de mes voeux parce que je trouve qu'il est sain en démocratie d'avoir un clivage gauche-droite clair dans la tête des gens, qui puisse aussi permettre d'avoir des véritables débats de fond. Et ce que l'on voit dans les collectivités, c'est que des personnalités de droite comme de gauche parviennent aussi à travailler ensemble dans des métropoles, des maires de gauche, de droite, etc., y compris même dans des majorités communales, municipales. Mais je ne suis pas certain qu'avec Bruno Retailleau, qui reprend un certain nombre de thèse de l'extrême droite, on puisse parvenir justement à une forme de retour à ce clivage républicain gauche-droite qui permettrait par ailleurs d'amoindrir et d'affaiblir potentiellement les discours populistes, notamment de l'extrême droite, mais peut-être qu'il faudra aussi songer à une nouvelle forme d'organisation, un nouvel échiquier politique pourrait apparaître, notamment quand Emmanuel Macron se retirera du pouvoir en 2027. Et donc, pourquoi pas à l'avènement, moi je pense que ça pourrait arriver, d'une gauche républicaine, d'une droite républicaine, mais encore faut-il que la droite républicaine se républicanise.
Voilà, il faut réintroduire la République dans la politique,
la
si j'ose dire.
Et surtout sortir des postures où, sur les plateaux télé, Bruno Retailleau, mais comme Laurent Wauquiez pendant la campagne du Congrès des Républicains, ont eu à cœur de dire des choses plus ou moins tendancieuses et franchement déplorables, et plutôt qu'ils prennent exemple sur leurs collègues élus, maires, présidents de départements ou de régions, qui, dans les territoires, font preuve de beaucoup plus de pragmatisme parce que, avec les réalités, les moyens que l'on a, ils travaillent avec toutes les forces vives des territoires. C'est ce vers quoi on doit véritablement travailler et pas finalement chercher la petite phrase qui qui va faire son buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias.
Voilà, alors là ici, il n'y aura pas de petite phrase. On essaie d'amener la réflexion sur le temps long. Merci infiniment Alexis Bouchard, membre du Parti Socialiste, et je rappelle ex-secrétaire national des Jeunes Socialistes, d'avoir été avec nous ce matin, ce vendredi, pour avoir cette réflexion autour de la politique et du renouveau du Parti Socialiste. Très belle journée.
Bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.